Voilà. Alors j'aimerais revenir sur un moment difficile qu'a vécu notre Église, en tout cas beaucoup d'entre nous. C'était au mois de mars et deux événements se sont enchaînés et m'ont personnellement profondément touchée, de même que plusieurs d'entre vous et bien d'autres encore, j'imagine. Tout d'abord, il y a eu l'agression barbare de Rosanne, la fille de Daniel, qui l'a laissée en urgence absolue entre la vie et la mort. Et 15 jours après, l'admission de Thérèse, notre sœur Thérèse, aux urgences. Toutes les deux ont vu leur vie basculer en un instant, leur survie tenir à un fil. J'imagine leur soudaine angoisse, leur peur, certes, de mourir, mais aussi la peur pour leurs enfants. Toutes deux ont des enfants et ça a dû être terrible. Alors, toutes les deux sont encore hospitalisées. Rosanne est toujours en réanimation, 2 mois et demi après. Thérèse va mieux, mais elle est encore en rééducation pour longtemps. Elles ont vécu et vivent encore, ainsi que leur famille, une tourmente qui les a prises au dépourvu par surprise. De nombreuses situations peuvent être vécues comme des tempêtes dans nos vies et nos submerger. Une agression, comme ici, un accident, une maladie grave, une rupture, la perte d'emploi, le burn-out professionnel pour certains, le manque d'argent, que sais-je. Et même si la situation ne nous touche pas directement, les annonces répétées de catastrophes climatiques, des guerres, des épidémies, enfin toutes ces mauvaises nouvelles peuvent nous déstabiliser, nous faire perdre nos repères personnels, y compris dans notre foi. J'entends souvent ces questions de croyants ou de non-croyants, mais où il est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas? Pourquoi est-ce qu'il a permis cette catastrophe? Peut-on vraiment attendre quelque chose de lui? Ces questions récurrentes m'ont fait penser à un événement particulier de la vie de Jésus. Jésus et ses disciples ont traversé plusieurs moments très difficiles, tumultueux, au propre et au figuré. Et pour l'illustrer, j'ai choisi un épisode raconté dans l'Évangile de Marc, au chapitre 4, les versets 35 à 41. C'est écrit un peu petit, mais je vais vous le lire. Voici le texte. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Et après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva, et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc cet homme ? Même le vent et la mer lui obéissent. » Alors Jésus a passé toute la journée à enseigner la foule. C'est lui qui demande à partir et à rejoindre l'autre rive. Il est fatigué par les déplacements, épuisé par les enseignements qu'il a donnés sans relâche et les multiples rencontres. Il a besoin de se reposer. Et une fois dans la barque, Jésus, tout naturellement, laisse la responsabilité de la traversée aux pêcheurs, aux professionnels de la mer. Et lui, en tant que passager, il a la possibilité enfin de se détendre, il va s'allonger et il s'endort. Jésus dort malgré le ballottement des vagues et c'est un ballottement qui s'intensifie car une tempête s'élève sur le lac. Cette tempête secoue le bateau de plus en plus, une tempête telle que même les marins les plus aguerris sont en panique. Alors je suis allée moi-même au bord du lac de Tibériade, qu'on peut aussi appeler le lac de Galilée, et je l'ai traversé. Heureusement, il n'y a pas eu de tempête. Mais c'est un lac qui est entouré de collines, alors comme on le voit sur ce tableau. Voilà. Il est donc au creux des monts de Galilée et du Golan, et le fleuve, le Jourdain, les a creusés pour passer. Alors, le Jourdain, ce n'est pas un fleuve très large, et un couloir s'est formé entre les montagnes, enfin entre les collines, où les vents du nord et les vents du sud s'engouffrent sous pression. Donc, on comprend bien pourquoi les tempêtes y sont particulièrement terribles. Imaginez la barque de Jésus, les tourbillons de vent, les vagues déchaînées, au point que l'eau commence à monter dans l'embarcation. Le texte précise que c'est le soir. Et la tempête est d'autant plus redoutée que la nuit va tomber. Et là, image incongrue, on voit Jésus qui continue à dormir tranquillement. Il ne se réveille ni au bruit de la tempête, ni au cri de ses compagnons. Il y a là de quoi choquer ses compagnons et ils décident de le réveiller. On entend la détresse, la panique dans leur voix. Alors, les disciples, quand ils le réveillent, ne lui demandent pas un miracle. En ce début d'évangile, nous sommes au chapitre 4, Jésus est encore pour ses compagnons un charpentier, un ami, certes un guide spirituel qui a déjà fait plusieurs guérisons, mais entre guérir quelqu'un et calmer une tempête, ça n'a rien à voir. Non, ils le réveillent parce qu'ils se sentent abandonnés. Peut-être même qu'ils sont vexés ou blessés du manque d'intérêt de Jésus. On imagine leurs reproches. Nous, on va mourir et toi, tu ne te réveilles même pas. Tu pourrais au moins te lever, écoper l'eau, nous encourager, montrer que tu nous soutiens, même prier. En plus, c'est toi qui as voulu traverser. Mais on va mourir et tu t'en fiches, tu préfères dormir. Combien de fois dans nos propres difficultés, nous avons l'impression que Dieu est comme Jésus, dans la barque, en train de dormir. Il paraît absent, on se sent seul dans notre galère. Quand l'épreuve se fait intense, voire difficilement supportable, on est souvent comme les disciples, prompt à se précipiter dans l'interprétation. Quand nous ne savons pas, nous imaginons. Et nous projetons nos propres sentiments sur les autres, et c'est vrai même vis-à-vis de Dieu. Si je ne vois pas Dieu agir, c'est qu'il ne s'occupe pas de moi. Peut-être qu'il a quelque chose de plus important à faire, ou peut-être que ça lui est égal, que je ne l'intéresse pas, qu'il ne m'aime pas, ou qu'il ne m'aime plus, ou peut-être que c'est de ma faute, qu'il m'en veut, qu'il m'a laissé tomber. Et de l'interprétation, on passe vite à la généralisation et au jugement. S'il n'intervient pas, est-ce que ça veut dire qu'il est indifférent à notre sort, à tous, ou qu'après tout, il n'est pas si juste que ça, ou tout simplement qu'il n'existe pas? Nous interprétons à tort et nous jugeons Dieu et les autres, alors que Dieu, lui, nous propose mille fois sa grâce. Juger notre Créateur, ça paraît complètement aberrant, et pourtant toutes sortes d'idées de ce genre peuvent nous traverser l'esprit quand on est vraiment au creux de la vague, si j'ose dire. Mais voilà, on arrive au verset 39. Souvenez-vous, Jésus se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent tomba et il y eut un grand calme. Tout à coup, toutes les suppositions s'effondrent, car en un instant, Jésus utilise son autorité et d'un mot, il balaye la tempête. Quel contraste entre l'angoisse des disciples et l'autorité tranquille de Jésus. C'est la première fois dans l'évangile de Marc que la puissance de Jésus se révèle avec une telle ampleur. Jusqu'à présent, il avait exercé son pouvoir de guérison sur des individus. mais là, il maîtrise une nature incontrôlable, dangereuse. On voit pour la première fois chez lui son infinie puissance. On a l'impression de se retrouver au début de la Genèse. Enfin, moi, quand je l'ai lu, j'ai eu l'impression d'être dans la Genèse quand Dieu crée le monde par sa parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ici, Jésus dit au vent et à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent tombe et la mer se calme. On commence à voir ici que Jésus n'est pas qu'un simple guérisseur, qu'un homme qui a des dons particuliers. Il y a bien en lui quelque chose du Dieu créateur. Certains disciples se demandent alors, et c'est bien légitime, s'ils ont bien vu, s'il a réellement pu calmer une tempête d'une seule phrase. Et si c'est le cas, qui peut-il bien être ? Ils ont le sentiment de finalement ne pas si bien connaître que ça, ce Jésus qu'ils côtoient chaque jour. Ils sont déstabilisés, tout comme nous pouvons l'être devant un fait extraordinaire, voire impossible. Après, si on considère qu'il y a un Dieu, que ce Dieu a créé le monde, qu'il reste impliqué, alors ces interventions nous impressionnent, nous surprennent, oui, mais elles ne sont pas impensables ni impossibles. Alors, c'est un peu comme un informaticien qui peut à tout moment modifier un paramètre de son programme sans pour autant compromettre et remettre en question le fonctionnement du logiciel. Et Dieu est pareil, hein, en mieux. Dans son évangile, Marc insiste en particulier sur ce que Dieu est capable de faire, d'accomplir. Il enchaîne d'ailleurs dans le chapitre 5, c'est-à-dire juste après ce récit de la tempête apaisée, trois miracles. Comment Jésus délivre un homme possédé par des esprits impurs. Ensuite, comment il guérit une femme qui a des pertes de sang depuis 12 ans. Et enfin, il ressuscite la fille du chef de la synagogue. Par cet enchaînement de miracles, Marc souligne que la puissance de Jésus agit dans tous les domaines, sur les forces de la nature, comme ici, mais aussi sur le surnaturel, sur la maladie et sur la mort elle-même. Remarquons que la puissance de Jésus n'est pas une force brute ou aveugle, comme celle de la tempête ou des éléments. La puissance de Jésus, elle est en faveur de la vie. Elle est libératrice, vivifiante, éclatante. Dans la tempête, Jésus a commencé à montrer qu'il n'est pas seulement un ami ou un guide qui vient en aide quand on est en difficulté. Non, ici on voit Jésus qui est comme Dieu, qui est Dieu. Dieu qui dort et Dieu qui agit. On comprend l'identité de Jésus et ses priorités. Secourir, sauver du mal et même de la mort. Et c'est ce qu'il fera jusqu'à la fin, jusqu'à la croix, où là aussi, par la puissance de son amour, ayant payé pour nous, il se réveille de la mort, nous permettant ainsi d'entrer dans la vie éternelle, dans toute sa beauté. Mais revenons au lac de Tibériade. L'histoire ne s'arrête pas à la tempête qui se calme. Ce n'est pas un happy end, les héros sont sauvés, tout est bien, l'histoire s'arrête. Non. En effet, Jésus, après avoir calmé la tempête, rabroue ses disciples. « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi ?» Après, aux premières vues, on peut trouver que les reproches de Jésus sont un peu durs. C'est un peu normal d'avoir peur en pleine tempête, de se sentir impuissant, de ressentir la fragilité de la vie humaine face aux éléments déchaînés. Après tout, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire ou dû faire ? Rien. Attendre que ça se passe, aller dormir aux côtés de Jésus, le réveiller, mais en douceur. En réalité, ce n'est pas ce qu'ils ont fait que Jésus leur reproche. Il leur reproche leur peur, il le leur dit bien. On note que dans le Nouveau Testament et même dans l'Ancien, il nous est dit à maintes fois de ne pas craindre, de ne pas avoir peur. Mais de quelle peur s'agit-il ? De quelle peur Jésus parle-t-il ? De celle de mourir dans la tempête, non ? C'est pas ce qu'ont dit les disciples. Leur crainte, c'est que Jésus les abandonne, qu'il ne s'occupe pas d'eux, qu'il ne les aime pas. Souvenez-vous au verset 38. Cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ? Jésus associe cette peur-là à un manque de foi, et il leur dit. Mais ils n'auront pas d'autre explication pour le moment. De toute façon, ils n'écoutent pas. Ils écoutent à peine, même pas du tout. Ils sont tétanisés parce qu'ils viennent de voir, comme si maintenant, ils avaient plus peur de lui que de la tempête. Parce qu'une tempête, c'est grave. On sait ce que c'est. Mais un homme qui la maîtrise d'une phrase, ça c'est inédit et ça fait peur. Qui est vraiment cet homme qu'il croyait connaître ? Les disciples n'osent pas encore y répondre et chacun se fait son idée, son opinion. Mais la découverte du pouvoir de Jésus leur donne le vertige. Ils commencent à comprendre que leur maître est plus qu'un homme qui a l'autorité du Créateur. Ce qui s'est passé dans cette tempête va bien plus loin qu'une belle histoire qui se passe il y a 2000 ans. C'est un texte qui nous rejoint trop souvent. Quand nous aussi nous sommes ballottés, tourmentés, et la première chose que nous en tirons, c'est que dans les pires situations où nous sommes, quand nous sommes submergés par la douleur ou par la peur, quand nous nous sentons seuls, impuissants, nous avons tendance à oublier que Dieu, Christ, est là avec nous. Nous agissons comme s'il était absent. Mais n'oublions pas que nous pouvons lui faire confiance. Confiance à celui qui a toute puissance pour calmer nos tempêtes et ramener la paix. Oui, Dieu est là, présent. Et ce qui est souvent déstabilisant, c'est que Dieu n'est pas forcément là où on l'attend. Par contre, il est souvent là où on ne l'attend pas. On le voudrait à l'avant avec nous, combattre la tourmente, et lui, il est à l'arrière. Il ne fait pas non plus exactement ce qu'on lui demande. On attend, comme les disciples, une aide, un soutien, un encouragement. Mais Jésus, Dieu, est décalé par rapport à nos attentes, comme par rapport à celles des disciples. Oui, il est proche de nous, oui, il règle les choses, mais à sa manière. On ne peut pas le contenir, l'enfermer dans nos stratégies à nous, nos désirs et nos cadres, car il est beaucoup plus grand. Il est à un autre niveau, plus, il fait les choses autrement, à un autre rythme, bien plus largement et bien plus profondément qu'on oserait ou qu'on pourrait imaginer. Et j'y trouve un exemple dans ce texte. Dans le récit de Marc, il est dit au verset 36 qu'il y avait d'autres barques avec eux. Or, en calmant la tempête, Jésus sauve non seulement ses compagnons dans la barque, mais aussi ceux qui traversent le lac dans les autres embarcations. Le plan de Dieu est tellement plus grand que ce que nous lui demandons. Alors Jésus, dans le récit, après avoir critiqué leur manque de foi, ne dit pas ce qu'auraient dû faire ou croire les disciples. Il ne dit pas à quoi ressemble cette foi dont il leur reproche de manquer. Mais on peut relever quelques éléments. Dieu ne nous demande pas de nier la réalité de ce qui se passe. Il nous respecte. Jésus ne dit pas « Oh, laissez-moi tranquille, il n'y a pas de tempête, c'est dans votre tête que ça se passe ». C'est vous qui l'imaginez, non. Aux paroles des disciples, ils se lèvent, ils voient le problème, ils le règlent. Avoir la foi ne nous empêche pas de voir ce qui se passe, d'être conscient de la réalité dans toute son ampleur, quelquefois dans toute sa cruauté, et d'avoir peur si elle est effrayante. Mais nous avons tendance à vouloir mener notre barque nous-mêmes, à tout vouloir gérer dans notre vie. Alors que Dieu nous invite à lui demander de l'aide et à croire qu'il va agir. Face à l'épreuve, nous pouvons crier à lui, nous pouvons le réveiller dans la prière, l'appeler à l'aide parce qu'on a peur. Si on ne l'appelle pas, où est la confiance qu'on a en lui ? Regardez dans les psaumes. On peut tout à fait crier à Dieu, pleurer à Dieu, lui dire notre colère, notre inquiétude, notre lassitude, notre douleur. Ah Seigneur, j'en peux plus. On peut aussi lui dire nos pourquoi. Pourquoi ça arrive ? Pourquoi je ne te vois pas arrive ? Je ne te vois pas agir. Et notre désarroi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Si vous regardez bien, c'est la moitié des psaumes. Le souci avec les disciples, c'est qu'ils ont réveillé Jésus uniquement pour lui faire des reproches, pas pour lui demander de l'aide. Sous-entendu, tu nous as embarqués dans cette galère, alors que nous, on a tout quitté pour toi, et tu nous laisses tomber. Nous allons mourir, et toi, ça ne te fait rien. Mais non, il n'en est rien. Dieu nous appelle à nous adresser à lui avec confiance, avec la certitude qu'il est proche, qu'il est grand, qu'il nous aime et qu'il va agir pour notre bien. Ce qui est réconfortant, c'est que malgré le manque de foi des disciples que Jésus leur reproche, Jésus les a quand même délivrés de la tempête et les autres barquent avec lui. Alors soyons simples, soyons comme des enfants qui mettent toute leur confiance dans leurs parents. Quel enfant en danger se demande s'il a vraiment le droit d'appeler ses parents ? S'il est bien qualifié pour appeler au secours, s'il va avoir les bons mots. Non. Osons demander de l'aide. Osons remercier Dieu de ce qu'il a fait ou fera pour nous, même si on a l'impression de mal prier, de ne pas trouver les mots, de manquer de foi. En un mot, osons avoir avec Dieu une vraie relation fondée sur la confiance. Car Dieu le Père, Dieu Tout-Puissant, ce Dieu que nous révèle Christ, ce Dieu-là nous répondra, car ce Dieu-là ne nous abandonnera pas. Je vous propose de prier. Oui, Père, nous sommes prompts à douter, à interpréter et à juger. Nous voulons souvent t'imposer nos solutions humaines, ignorant que tu es tellement plus grand et plus sage qu'elle. Père, nous te demandons aujourd'hui d'éloigner de nos cœurs la peur et le doute et de les remplacer par la simplicité, l'humilité et la confiance. Amen.